Édition spéciale au lendemain du premier tour des élections législatives. Le président de la République, Emmanuel Macron, est conforté. La République En Marche fonce vers une victoire écrasante. Dimanche prochain, plus de 400 députés sur les 577 de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas ce que nous disent les projections des sondeurs. Ce premier tour a été marqué par une abstention record, la débâcle du Parti Socialiste, les scores décevants de la France Insoumise et du Front National. On y revient dans les prochaines minutes avec notre invité, Olivier Roucan, politologue, enseignant-chercheur en sciences politiques, avec Guillaume Nodin, du service politique de RFI, et avec la revue de presse de Frédéric Couteau.
Les élections législatives françaises sur RFI. Arnaud Pontus.
Bonjour Olivier Roucan.
Bonjour.
La République En Marche et le Modem ont obtenu ce dimanche 32,32% des voix. Tous les sondeurs tablent sur une victoire, une majorité écrasante dimanche prochain. Est-ce qu'Emmanuel Macron a déjà gagné son pari ?
C'est un pari gagné sur le plan du soutien à ses politiques, puisqu'il n'aura pas de problème pour, semble-t-il, au vu de ce qui nous est dit, faire passer ses textes. Maintenant, les 50% dépassés d'abstention, ça
51-29,
précisément. Voilà, 51-29, ce n'est pas une réussite parce que cela montre qu'il y a toujours des citoyens ou qui sont lassés ou qui sont très méfiants et toujours les mêmes, c'est-à-dire classe populaire, c'est-à-dire moins diplômés, c'est-à-dire même sans préférence partisane. Donc l'effet d'entraînement de ce nouveau mouvement existe, mais il est limité malgré tout.
Plus d'abstentionnistes que de votants, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, 51-29. Plus de 24 millions de personnes qui ne vont pas voter hier. C'est du jamais vu aussi.
C'est du jamais vu et c'est à chaque fois, dans le cadre du quinquennat notamment, ces législatives qui suivent de près la présidentielle suscitent de plus en plus d'abstention. Ça posera un problème sur le fonctionnement de notre démocratie. Parce que la base d'un système représentatif, c'est quand même l'Assemblée nationale, un pouvoir collectif de délibération. Donc si ceci n'intéresse plus, ça pose vraiment un problème démocratique.
Ça n'intéresse plus, pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'était déjà plié, qu'Emmanuel Macron allait l'emporter. Tiens, que c'est encore la faute des sondeurs qui nous disaient que de toute façon il allait avoir une majorité écrasante.
Alors, on a beaucoup d'interprétations. Oui. J'ai vu ce matin dans l'enquête Ipsos là qui avait été faite que il y a un élément fort quand même qui semble avoir pesé dans cette abstention pour les partis traditionnels. Et évidemment, il y a eu plus d'abstention éventuellement auprès de leurs sympathisants. C'est la lassitude et le rejet vis-à-vis de ces partis qui ont, selon l'électorat, qui n'ont pas répondu aux attentes. Et donc ça a motivé, mais c'est très conjoncturel, donc parce que le paysage va se recomposer. Peut-être que la fois prochaine, ce sera plus attractif.
On est lassé du paysage qui existe, sans pour autant aller adhérer à la nouvelle offre politique qui se présente.
Exactement. Il faut toujours se rappeler, et pour la suite, il faudra s'en rappeler des résultats du premier tour de la présidentielle, pour avoir une vision un peu plus juste des rapports de force. Et on savait, dès le premier tour de la présidentielle, et même au second, que, si vous voulez, ce qu'on dit aujourd'hui, bon, il faut voir, il faut donner une chance, cela ne signifie pas on est à fond pour et on adhère et pas au et notamment sur le projet et sur le programme. Donc ça, c'est le piège pour l'exécutif actuel avec une telle majorité, celle qui se profile, de penser que il y a un accord vis-à-vis de ce qu'il propose. Ça, il faudra faire très attention.
Alors, majorité pléthorique en vue, c'est ce que l'on dit. Et on entend depuis hier les Républicains, le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Front National mettre en garde les Français contre un risque de quasi-parti unique.
Les projections en siège annoncées montrent qu'un sursaut est indispensable pour le second tour de ces élections législatives.
Si cette majorité absolue est encore amplifiée, elle sera quasiment sans opposition réelle et nous aurons donc une Assemblée nationale sans véritable pouvoir de contrôle, sans débat démocratique digne de ce nom.
Au deuxième tour, ne donnez pas les pleins pouvoirs au parti du président.
Il faut qu'il y ait une fonction de contrôle, une fonction d'opposition, une fonction d'alerte à l'Assemblée nationale, une fonction d'alternative démocratique à l'Assemblée nationale, sinon on va laisser les pleins pouvoirs à Macron.
Voilà, c'était François Baroin, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Luc Mélenchon et Florian Philippot. Est-ce que les électeurs peuvent être sensibles à ce type d'argument, Olivier Roucan, écrasante pour La République En Marche ?
On voit rarement entre deux tours un bond de participation extraordinaire. Mmh. Et de toute façon, même s'ils y sont sensibles, n'est-il pas trop tard? C'est-à-dire que la configuration des seconds tours est très restreinte et toute une partie de l'électorat ne trouvera pas... C'est trop tard, j'allais dire. Oui, il fallait se mobiliser.
C'est déjà quasi plié. Hein.
Il y a une triangulaire.
Guillaume Nodin, oui.
Il y a une triangulaire au second tour.
Ce qui est très très peu. Hein. On a eu des législatives avec une centaine de triangulaires.
C'est arrivé, effectivement. Et là, il y en a une, du fait de l'abstention importante, puisqu'il faut avoir 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour. Une seule triangulaire. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. On aura des choix binaires, la plupart du temps. La République en marche contre la droite républicaine traditionnelle.
Oui, je crois que le Front National est au second tour sur 60 circonscriptions, ce qui est plus, d'ailleurs, qu'en 2012. Donc on voit que même s'il ne progresse pas en suffrage exprimé, il progresse en stratégie sur les circonscriptions pour être présent au second tour. Voilà, donc c'est un choix très contraint. Hein. Vous imaginez, lorsque vous avez La République En Marche, Front National dans 60 circonscriptions, que font les électeurs de la droite classique ou du Parti Socialiste?
Oui. C'est très compliqué, c'est très compliqué pour eux, sans doute. Une majorité si forte à l'Assemblée, vous l'évoquiez à demi-mot tout à l'heure, est-ce que c'est une si bonne nouvelle pour Emmanuel Macron?
Bah, c'est un risque de...
Tout en rappelant que c'est pas encore fait. Hein.
Tout à fait, c'est un risque donc d'un système politique qui, à force de présidentialisation, et à mon avis là on atteint quand même des limites, fonctionne par le haut tout le temps et suivant l'incarnation. Mais la dimension collective délibérée, plus diversifiée de la démocratie, ça me nuise. Alors là, où va être finalement, c'est la question hein, depuis hier, où va être l'opposition? Est-ce que ça va être le Conseil constitutionnel, sachant que avec des groupes qui sont inférieurs à 60 députés, par exemple, il ne peut pas être saisi? Est-ce que ça va être les collectivités locales? Mais où vont se situer les contre-pouvoirs? Ça, c'est un risque majeur pour tout pouvoir en démocratie, c'est de manquer d'opposition. C'est François Mitterrand qui rappelait ça, et c'est la raison pour laquelle il avait appelé en 88, il faut s'en rappeler, à une majorité relative.
Un manque d'opposition pour Emmanuel Macron et de surcroît tout un tas de novices en politique qui ne vont pas manquer de faire les choux gras de la presse avec quelques couacs, j'imagine.
Alors, là aussi, on va parler en termes de probabilité. Dans un premier temps, vous allez avoir beaucoup de néophytes qui sont très contents d'être là et qui seront relativement disciplinés. Il faut quand même mettre en place, quand on a autant d'élus, des systèmes de contrôle et de cadrage par les plus expérimentés, ce qui va pas être évident. Et ensuite, si les difficultés se présentent sur le chômage, sur les enjeux notamment de droit du travail, etc. Bon, avec le temps et les difficultés, peut-être qu'une partie se désolidarisera et on ne peut pas préjuger du comportement de personnalités qui arrivent qu'on ne connaît pas, mais y compris au sein d'En Marche finalement. Ouais, Ils ne se connaissent pas tous ces gens.
Ouais, mais les majorités pléthoriques, ça n'a pas toujours été une très bonne nouvelle pour un pouvoir en place. 1993, Édouard Balladur, très grosse majorité, ça ne l'a pas empêché, lui personnellement, d'être balayé à la présidentielle suivante.
Oui, on fait souvent le comparatif avec 93, mais il ne faut pas oublier qu'en 93, il y avait deux partis, et deux partis entre lesquels il y avait beaucoup de tensions. Donc c'était pas une majorité aussi compacte que celle qui va émerger ici. Alors, il y a quand même le Modem, hein, dans ce LR Modem, mais il faudra voir ceci. Bon, là, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. C'est une prise de risque assez inédite, finalement, parce que, encore une fois, même s'il y a cette couleur, alors jaune ou violette, en fonction des représentations...
Ah oui, ça dépend. Le panel des couleurs, hier soir.
Il va falloir trouver la bonne couleur.
On ne sait pas ce qu'il y a dessous, et encore une fois, comment vont se comporter notamment ces personnalités venues de la société civile, est-ce qu'ils vont résister? Est-ce qu'ils vont animer cette assemblée? Est-ce qu'ils vont amender les textes? On ne sait pas.
Ça fait beaucoup de questions. Olivier Roucan, vous restez avec nous. On va passer en revue la presse de ce matin. Large victoire de La République En Marche d'Emmanuel Macron. Large abstention. Voilà les deux faits que retiennent les journaux ce matin après ce premier tour, Frédéric Couteau.
Oui, Macron en marche vers une majorité écrasante, s'exclame le Figaro. La vague Macron, constate La Croix. Législative l'OPA lance Libération. Un coup de maître, renchérit le Parisien. Pour l'opinion, Macron plie le match. C'est l'effet Macron, relève les Échos. L'abstention majoritaire, le risque d'une chambre bleue Macron, prévient l'Humanité. Alors, Coup de balai, s'interroge Libération. Non, coup de plumeau, répond le journal. Les partis traditionnels tombaient en poussière. Ils se sont effondrés tel une charpente vermoulue. Quant à l'électorat, il a considéré que l'affaire était pliée. Il s'est abstenu pour moitié, record historique et seule ombre au tableau pour les vainqueurs. C'est un triomphe, sans enthousiasme, donc une victoire écrasante et molle, pointe Libé. Elle présage néanmoins d'une assemblée quasi monocolore. Au bout du compte, constate encore le journal, En Marche piétine ses adversaires. Macron peut se saisir de tous les pouvoirs. Une page totalement neuve s'ouvre pour le pays. Qui l'eût cru? Qui l'eût dit? C'est ce beau dit Le Figaro, une formation politique qui n'existait pas il y a 2 ans et donc en passe de rafler une insolente majorité à l'Assemblée nationale, bouleversant du même coup un paysage politique que l'on a longtemps pensé immuable. Emmanuel Macron a réussi son pari et il peut ce matin observer les conséquences de ce tonitruant dynamitage.
On s'y attendait, mais pas à ce point, relève Ouest France.
L'abstention historique pour ce genre d'élection est, avec la transformation de l'essai pour par Emmanuel Macron, le fait marquant de ce premier tour. Mais qu'un électeur sur deux ne se soit pas déplacé n'est pas rassurant, tempère Ouest France. Que La République En Marche rafle la mise avec un tiers de la moitié des inscrits n'est pas glorieux. Pour gouverner, il vaut mieux pouvoir compter sur une adhésion nette à son projet et avoir l'opposition au Parlement plutôt que dans la rue. Pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. En effet, complète Les Échos, Emmanuel Macron court le risque d'obtenir une majorité pléthorique, donc un peu compliquée à tenir, et surtout de la devoir à une participation trop faible pour ne pas soulever de questions. Ses candidats LREM ont obtenu au soir du premier tour 32,6% des voix. L'abstention a atteint un record absolu de 50,4%. Doit-il s'en réjouir ou bien s'en inquiéter? Que porte plus profondément cette abstention inédite, s'interroge encore le quotidien économique. Du fatalisme, un manque d'enthousiasme pour le nouveau président, l'impression des Français les moins favorisés de ne pas faire partie de l'aventure. C'est bien connu, concluent Les Échos, on peut gagner une bataille sans avoir encore forcément gagné la guerre. En tout cas, constate La Croix, l'horizon est dégagé pour les nombreux projets du président de la République, notamment sur le code du travail et la moralisation de la vie politique. L'été réformateur s'annonce chargé, mais tout n'est pas réglé, prévient également le quotidien catholique, compte tenu notamment de la faible expérience de ses nouveaux élus. L'Assemblée nationale, dans la logique du quinquennat, est devenue la chambre d'enregistrement des volontés de l'exécutif. Pourront-ils faire entendre leur voix? Le défi demeure, pour eux comme pour ceux qui les ont précédés, d'être enfin capables, en légiférant, de prendre en compte les aspirations des citoyens et de ne pas se contenter, conclut La Croix, d'être à l'Assemblée nationale les godillots du renouveau.
Merci Frédéric Couteau pour ce coup d'œil à la presse de ce lundi. On a parlé du score de La République En Marche, plus de 32%. Quelques mots du Parti Socialiste. Score national pour le PS seul, hein, si on ne compte pas le PRG, 7,44% des suffrages. Une kyrielle de personnalités éliminées dès le premier tour. Et parmi les figures sorties dès hier, il y a le patron du parti, Jean-Christophe Cambadélis, mais aussi celui qui était le candidat du PS à la présidentielle, autrement dit Benoît Hamon, député sortant de Trappe.
Donc ça s'est joué à 80 voix, c'est pas beaucoup, mais nous faisons 23%, mais c'est insuffisant pour se qualifier au second tour. C'est à peu près la situation rencontrée par la totalité des candidats de gauche. Et cette saveur amère de ce soir, parce que nous échouons près de la qualification, elle n'enlève rien à l'engagement qui sera le mien demain, de continuer à me battre pour ces ouvriers, ces employés, ces petits retraités, ces jeunes, ces pauvres. Je pense que des partis politiques ont échoué, mais les idées et les valeurs qu'ils portent vivent encore. Et je crois que demain, dans ce qui sera la synthèse entre le socialisme et l'écologie, nous ferons vivre à la fois des valeurs, mais aussi un projet politique.
Voilà Benoît Hamon qui veut croire en l'avenir. Olivier Roucan, politologue, toujours avec nous. Est-ce que le PS est mort et enterré?
Ah, il est très mauvais état. Il est pas bien, mais surtout, peut-on en parler du PS? Je veux dire, quel va être le choix de ce député élu qui reste divisé, notamment entre ceux qui voudraient rester de gouvernement réaliste et ceux qui iraient plus vers une refondation de la gauche, mais sur des fondamentaux assez contestataires. Avec les est-ce qu'il va rester? Y aura-t-il un groupe uni socialiste divers gauche? Est-ce que tout ceci va, les cartes vont être battues? Il faudra voir. pouvoir. Bon,
donc un PS faible et désuni, ça fait beaucoup. Hein.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est surtout ceci qu'il faut régler, rebattre les cartes dans le personnel politique dirigeant qui va rester au sein des gauches et refonder des organisations. Je crois qu'on est à un moment de recomposition des organisations politiques, quel que soit le nom, peut-être qu'il y aura un PS demain. Mais là, on a besoin d'une clarification sur ils veulent faire quoi, soit épauler En Marche ou une perspective de poursuite de ce qui a été fait dans le quinquennat précédent, ou alors avec des écologistes, une partie française soumise au PC, refonder
une
opposition beaucoup plus dure, j'allais dire, à ce réalisme de gouvernement.
Guillaume Nodin, qu'est-ce qui s'est passé avec le PS ?
Il s'est passé avec le PS que, tout simplement, il n'a pas su, comme le disait Olivier Roucan, définir une ligne politique claire, ou en tout cas qui s'adapte à ce que souhaitaient les électeurs, manifestement. Vous savez, pendant des années, on a eu un système électoral, un mode de scrutin qui, nous disait-on, favorisait les grands partis. Et ben voilà. Le grand parti qui est favorisé, c'est La République En Marche. Et peut-être que le PS, ainsi que la droite, c'est, il faut le dire, a un petit peu trop tiré sur la corde de ce système représentatif, le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Et aujourd'hui, eh bien, s'il y avait eu peut-être une petite dose de proportionnel qui avait été introduite, on en a parlé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, si ça avait été le cas, peut-être qu'il n'en serait pas là, parce que le PS est effectivement faible, il est désuni, et pourquoi pas, pourquoi ne pas le dire, il est peut-être ruiné. Parce que la représentativité,
c'est un aspect très important
de la représentativité. Plus vous avez d'élus, plus vous avez de financement public. Là, ça va être très très difficile pour le PS, qui a encore quelques atouts. Il y a beaucoup d'élus locaux qui sont socialistes. Il y a un siège social qui est la rue de Solferino, qui vaut beaucoup d'argent. Alors, je ne sais pas s'ils vont déménager ou pas. Moi, j'ai entendu parler d'une d'études pour réduire la voilure au PS, peut-être même d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan social, comme on appelle ça pour les permanents. Donc il va falloir faire attention à la survie du PS, effectivement.
Alors, le PS très mal en point. Du côté de la gauche, il y a la France insoumise, Olivier Roucan. 13% des voix, c'est bien moins que ce que Jean-Luc Mélenchon avait engrangé au premier tour de la présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi ?
Il s'est passé d'une part que l'électorat qui permet à Jean-Luc Mélenchon de décoller à la présidentielle fait partie de celui qui s'abstient, c'est-à-dire les plus jeunes notamment, les plus jeunes, les plus populaires. Et donc ce qui a manqué, c'est ceci. Deuxième facteur, c'est une campagne qui a été un peu paradoxale. Une présidentialisation qui a fonctionné, puis j'allais dire un envoi de messages complètement contradictoires pendant les législatives, avec un retour à un ton plus agressif qui passe moins. Et puis hier soir, d'ailleurs,
le ton de Jean-Luc Mélenchon.
Et puis sur troisième point, sur le plan des organisations, bien toujours des divisions très fortes entre les insoumis, le parti communiste, et une incapacité là encore à se réorganiser dans le temps imparti, j'allais dire.
Donc la gauche mal en point, si on fait la compilation de ce qui se passe au PS et de la France insoumise.
Oui, et d'autant plus qu'on ne sait pas, on peut pas forcément ajouter, d'ailleurs vous dites 13% France insoumise et le
11%,
PC.
11%,
si on ajoute le PC, alors que pour l'instant on ne sait pas si on peut ajouter le PC à France insoumise ou si plutôt on va l'ajouter.
C'est pas évident à l'écoute des commentaires des uns et des autres. Dernier score, et en quelques secondes, le Front National, arrivé au second tour de la présidentielle il y a quoi, un mois, et le FN qui se retrouve à 13% des voix.
Oui, alors là, si vous voulez, là encore, campagne qui finit par être contre-productive du second tour, problème de division interne et de repositionnement idéologique et mode de scrutin défavorable dans tous les cas à ce parti à chaque fois aux législatives. C'est-à-dire que cet écart, on le constate à chaque fois depuis assez longtemps.
Merci Olivier Roucan d'avoir été avec nous ce matin, politologue, enseignant-chercheur, pour décrypter ces résultats du premier tour des élections législatives. Cette édition spéciale se poursuit dans 10 minutes après le journal. Avec Frédéric Rivière, nous recevrons Aurore Berger pour La République En Marche, Geoffroy Didier pour Les Républicains et Nicolas Bay pour le Front National. Merci de votre fidélité à RFI et RFI.fr, évidemment, pour suivre tous les résultats. A tout de suite.